pour bien vous montrer que ce n'est pas la, d'un côté la plus importante. Et par contre, j'ai quand même tenu à la faire parce que, à l'heure actuelle, beaucoup de fidèles peuvent se laisser tromper par des apparitions ou des soi-disant apparitions. Le Seigneur a prédit qu'à la fin des temps, certains diraient « le Christ est ici, il est là », et il disait de ne pas suivre tout esprit. Alors après avoir analysé les trois âges de la vie intérieure, il importe maintenant de voir le rôle des charismes dans la vie de l'Église. On l'a vu la dernière fois, dans la vie spirituelle, on distingue deux pôles, dont l'un est positif et l'autre négatif. Ces deux pôles peuvent s'exprimer en termes de vie ascétique. Dans le terme ascétique, il y a le terme d'ascèse, qui dit ascèse dit renoncement, dit esprit de sacrifice, donc c'est l'aspect négatif. Et ensuite, vie mystique, mystique qui veut dire mystérieux, parce qu'ici-bas, l'union à Dieu est une union qui se fait dans la foi. Donc les deux pôles de notre vie spirituelle, il y a une vie ascétique et une vie mystique. C'est une vie à la fois de renoncement et d'abnégation, phase négative, et d'union à Dieu, la vie mystique. Mais il n'y a pas de vie mystique sans vie ascétique. Si on veut s'unir au bon Dieu, il faut se détacher des créatures. Et en fonction justement de notre degré d'union à Dieu, le renoncement dans notre vie spirituelle a une part qui est plus ou moins importante. Et on remarque qu'au départ, pour commencer, eh bien, ce renoncement est bien sûr plus important, puisqu'au départ nous sommes davantage attachés au bien de ce monde. Alors que plus on avance dans notre union à Dieu, plus on se détache du monde et plus rentre en ligne de compte ce que l'on appelle la docilité au don du Saint-Esprit. Donc au départ, au début de la vie spirituelle, même si les dons du Saint-Esprit nous ont été donnés au baptême, ils sont, pour ainsi dire, inefficaces. Mais plus nous faisons taire en nous la voix du monde, et plus nous pouvons entendre la voix de Dieu, et donc plus nous pouvons être dociles au don du Saint-Esprit. Et pour arriver à cette union parfaite, il est nécessaire de passer par des purifications très douloureuses. Et nous les avions vues aux deux conférences précédentes. La première, nous l'appelons la purification passive des sens. C'est la partie inférieure de notre être qui doit être purifiée. Et ensuite, il faut, comme c'est tout l'homme qui doit être purifié, il y a la purification passive de l'esprit. Alors, comme le bon Dieu n'est pas perceptible par les sens, puisqu'il est esprit, le bon Dieu est esprit, il nous l'a dit lui-même d'ailleurs, que l'heure était venue de l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, ça montre que la sensibilité n'est pas la chose la plus importante. Et alors, pour progresser les âmes, pour aider les âmes à progresser dans la vie spirituelle, le bon Dieu a très souvent coutume de donner aux débutants des consolations sensibles. Mais petit à petit, il va les priver de ces consolations pour les aider justement à progresser dans la vertu. Il faut que petit à petit, on apprenne à aimer Dieu, non pas d'un amour sensible, puisque le bon Dieu n'est pas perceptible par les sens, mais d'un amour de volonté. Et si l'âme méconnaît ce plan de Dieu sur elle, eh bien, elle risque fort de tomber dans deux écueils que nous allons analyser aujourd'hui. Le premier, c'est dans le charismatisme, dans le mouvement charismatique. Et le deuxième, elle risque d'être victime de crises qu'on pourrait appeler d'apparitionnite aiguë. Alors pour éviter de tomber dans ces pièges, nous allons tout d'abord voir la juste place que l'on doit donner aux dons de miracles, de langues, de prophéties dans la vie de l'Église. Ensuite, nous verrons la position de l'Église à l'égard des apparitions et des révélations privées. Et enfin, nous terminerons par donner des règles de discernement pour distinguer les vraies des fausses apparitions. Alors, première partie, les grâces qu'on appelle gratis date. Gratis date, ça veut dire donner gratuitement. Et dans l'Église, on différencie ces grâces gratis date de la grâce sanctifiante qu'on a reçue au baptême et qu'on appelle grâce gratum faciens, c'est-à-dire qui nous rend bon. Les grâces gratis date sont des grâces qui sont données gratuitement, mais qui ne sont pas données pour celui qui les reçoit, mais pour le bien commun de l'Église, à la différence de la grâce sanctifiante. Si le bon Dieu nous donne la grâce sanctifiante, c'est pour nous unir à lui. Tandis que les grâces gratis date, par exemple le don de prophétie, de parler en langue, de miracles, de révélations, s'il les donne, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le bien de l'Église. Quand la Sainte Vierge apparaît à Lourdes, ce n'est pas avant tout pour Bernadette qu'elle apparaît. C'est à Bernadette qu'elle apparaît, mais elle apparaît pour tout le monde. À la Salette, c'est encore plus clair. La Sainte Vierge dira aux enfants, le message que je vous ai donné, vous le ferez passer à tout mon peuple. Et elle le répétera deux fois. Donc ces grâces gratis date sont des grâces qui ne sont pas données en premier lieu pour celui qui la reçoit, mais pour le bien commun de l'Église. C'est déjà une constatation que l'on peut faire. Autre constatation, nous pouvons constater qu'au ciel, la charité durera éternellement. Donc notre union à Dieu, la grâce sanctifiante, sera transformée en gloire, mais cette charité durera éternellement, tandis que les dons de guérison, d'instruction, de prophétie disparaîtront. C'est saint Paul qui le dit aux Corinthiens, dans sa première épître aux Corinthiens, pour montrer l'importance de la vertu de charité. Mais il est vrai qu'ici-bas, le bon Dieu a doté l'Église de ses charismes en vue de la sainteté de ses membres. Ces charismes ont été surabondants à l'origine de l'Église. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, par exemple, ou même les Épîtres de saint Paul, on constate qu'il y avait le parler en langue, qu'il y avait beaucoup de miracles. Et cela était nécessaire au départ pour que l'Église soit crédible. Mais ensuite, au fur et à mesure des siècles, ces miracles sont devenus relativement plus rares. Cependant, on constate qu'ils demeurent toujours et qu'ils ne feront jamais défaut. Exemple de miracle qu'on a pu voir, par exemple, l'autre jour à la Louvée, le corps de Sainte Thérèse Coudert, qui est encore intact aujourd'hui. Il aurait dû se désagréger et il est intact. Donc, les miracles existent bien encore aujourd'hui. Ou les miracles de Lourdes, on enregistre encore régulièrement. Mais alors ici, l'erreur du mouvement charismatique, c'est de prétendre qu'il y aurait trois périodes dans l'histoire de l'humanité. La première serait l'ère du Père, ou de la création. On attribue en effet la création plus particulièrement au Père. On dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre ». Donc, première période, période de la création, c'est l'ère du Père. Ensuite, deuxième période, c'est l'ère du Fils, lorsque notre Seigneur est venu sur la terre, et qu'il s'est fait homme, et qu'il est mort pour nous. Et ensuite, il prétend qu'il existerait une troisième ère, une troisième période, qui serait l'ère du Saint-Esprit. Et de la même manière qu'après la Pentecôte, il y a eu ce fameux parler en langue, et qu'il y a eu ces fameux miracles, eh bien, durant la troisième ère, l'ère de la nouvelle Pentecôte, eh bien, il y aurait tous ces charismes que l'on a rencontrés au début de l'Église. Et qu'est-ce qui permettrait cette nouvelle Pentecôte? Eh bien, ce qui serait à la source de cette nouvelle Pentecôte, c'est ce qu'ils appelleraient le fameux baptême dans l'Esprit. Et il est vrai que dans les Actes des Apôtres, il est fait allusion, à un moment donné, à un ou deux passages, du baptême dans l'Esprit. Mais les commentateurs, les auteurs spirituels et les théologiens ont toujours pensé que ce baptême dans l'Esprit n'était autre que le baptême d'eau que nous avons reçu donc le jour de notre baptême et qui nous communiquait le Saint-Esprit. Tandis que eux, soi-disant, ils parleraient d'un baptême dans l'Esprit. Et ce baptême dans l'Esprit serait communiqué par une imposition des mains. Et cela est parti des États-Unis à la fin du siècle dernier, et c'est sorti d'un mouvement qui s'appelait le pentecôtisme, qui à l'origine était un mouvement protestant. Donc ce mouvement qui aujourd'hui se répand partout en France et dans le monde, qui s'appelle le mouvement charismatique, est en fait issu d'un mouvement qui protestant qui s'appelait le mouvement pentecôtiste. Alors si vous voulez avoir de plus amples renseignements là-dessus, la plaquette d'Arnaud de Lassus, Connaissance élémentaire du renouveau charismatique, est bien faite. Donc nous répondons déjà que s'il est vrai que les charismes ont été surabondants au début de l'Église, aujourd'hui, de par la volonté de Dieu, ils sont moins importants. Et vouloir recréer cette atmosphère de l'Église primitive, c'est méconnaître le plan de Dieu sur nous. Néanmoins, nous devons reconnaître que ces charismes sont nécessaires à la vie de l'Église. Saint Paul le dit aux Corinthiens. Les dons de l'Esprit qui se font connaître au dehors sont donnés à chacun pour l'utilité de l'Église. L'un, par exemple, reçoit de l'Église le don du discours de sagesse. L'autre, le discours de science. L'autre, le don de la foi. Un autre, de guérir les maladies. Un autre, le don de faire des miracles. L'un reçoit le don de prophétie et tel autre celui du discernement des esprits. Tout cela est opéré par un seul et même esprit qui départit ses dons à chacun comme bon lui semble. Et il en parle aussi bien aux Corinthiens qu'aux Éphésiens et aux Romains. Donc nous reconnaissons que certains charismes, que certains dons sont attribués à certaines personnes pour le bien de l'Église. Mais il faut reconnaître la limite de ces dons, et j'en parlais tout à l'heure en expliquant la différence qu'il y avait entre les charismes, donc qu'on appelle grâce gratis datée, et la grâce sanctifiante, qu'on appelle grâce gratum faciens. C'est que la grâce sanctifiante vous rend bon, tandis que le fait de recevoir donc ces charismes extraordinaires ne vous rendent pas bon pour autant. Et risque, lorsque vous en êtes le messager, risque de flatter votre orgueil. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas utile pour autant, mais en tout cas, ce n'est pas au don que l'on peut recevoir que l'on peut reconnaître la qualité d'une âme. Et par ailleurs, il faut noter que l'Église est hiérarchique. Le bon Dieu l'a voulu ainsi. Il a d'abord choisi 12 apôtres, et parmi les apôtres, il a voulu un chef, c'était Saint-Pierre. Donc l'Église est hiérarchique. C'est-à-dire que sans une autorité qui remonterait aux apôtres, l'Église n'existerait pas. Et par ailleurs, l'Église est avant tout vivifiée par la grâce, c'est-à-dire par la vie sacramentelle. Et c'est vrai qu'en plus, après, au-delà, elle sera soutenue par ses charismes multiformes. Alors, quel rapport doit-il exister entre les charismes, la vie sacramentelle et l'autorité? Eh bien, si aujourd'hui l'autorité est parfois défaillante, malheureusement avec la crise de l'Église, on ne doit pas pour autant soustraire les charismes à toute autorité. Et il ne faut pas que des chrétiens, du fait de charismes, soient placés en dehors de toute autorité. Et c'est justement l'un des problèmes, sans doute, du mouvement charismatique. Il est vrai qu'aujourd'hui, certaines autorités les reconnaissent, mais alors là, c'est peut-être en partie lié à leur défaillance aussi. Mais d'une façon générale, on remarque que, sous prétexte de dons qui, soi-disant, viendraient de Dieu, ils mettent ces dons, soi-disant, extraordinaires, au-dessus de l'autorité de l'Église. Et ça, c'est vraiment une erreur. Il faut bien se dire que le moyen ordinaire pour la conduite de son Église, pour le bon Dieu, ce n'est pas la prophétie privée, mais le magistère de la hiérarchie. Donc il ne faut pas essayer de regarder les messages de la Sainte Vierge à tel et tel endroit pour arriver à connaître le moyen ordinaire dont le bon Dieu conduit son Église. Il faut regarder le magistère de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce que l'Église a toujours enseigné. Ça ne veut pas dire que dans certains cas particuliers, la Sainte Vierge veuille bien apparaître pour donner un message précis à l'humanité lié à des circonstances. Mais ce n'est pas un moyen ordinaire, c'est un moyen extraordinaire. Donc lorsque les prophéties privées et les révélations privées répercutent l'enseignement constant de l'Église, cela est tout à fait conforme au plan de Dieu. Très souvent, le bon Dieu vient nous secouer parce qu'on a oublié les vérités essentielles de notre salut. Et donc, il estime qu'il est nécessaire de réveiller la foi des fidèles. Et il est vrai aussi que dans certaines périodes de débâcle généralisée, les révélations privées pourront corriger et redresser l'action ou l'enseignement d'une partie infidèle de la hiérarchie. Et c'est là un fait certain. Lorsque les pasteurs ne sont plus fidèles à l'enseignement qu'ils doivent transmettre, et dont ils ne sont pas dépositaires, mais ils ne font ils ont simplement pour mission de transmettre cet enseignement, et lorsqu'ils ne le font pas, le bon Dieu se sert en particulier des révélations privées pour rappeler à l'homme ses devoirs. On le voit par exemple quand on lit les dialogues de Sainte Catherine de Sienne. C'est impressionnant de voir toutes les révélations qui ont été faites à Sainte Catherine de Sienne sur les mauvais prêtres de son temps. Et elle leur reprochait leur attitude. C'est vrai encore dans les messages du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie reprochera également au clergé ses infidélités. C'est encore vrai dans le secret de la Salette, le secret de la Salette qui demande aux fidèles d'être vigilants et de ne pas suivre n'importe quel pasteur, parce que des prêtres également sont défaillants. Et elle va jusqu'à dire que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ces moyens extraordinaires doivent devenir institutionnels. Parce que sinon l'Église deviendrait un groupement informe, privé de chef et de structure et soumis aux fantaisies de chacun. L'Église serait bientôt soumise à un illuminisme incontrôlé. Comme le dit très bien le père Calmel, je me suis inspiré beaucoup de lui dans ce que je vous dis dans cette première partie, dans Les mystères du royaume de la grâce, c'est un livre en deux tomes. Le deuxième tome est intitulé Le chemin de la sainteté. Ce n'est pas parce que des prêtres et des évêques imbus de modernisme refusent les interventions surnaturelles de la Sainte Vierge et de notre Seigneur dans la vie de l'Église que les chrétiens favorisés par des apparitions sont pour autant supérieurs dans l'ordre du magistère et du gouvernement à la véritable hiérarchie. Donc le fait de recevoir des dons extraordinaires ne vous met pas pour autant au-dessus de la hiérarchie de l'Église. Ces réserves étant faites sur les limites à accorder au rôle des charismes dans la vie de l'Église, il ne faut pas pour autant en négliger la portée et la nécessité. Donc là, j'ai essayé de vous montrer surtout les limites de ces dons extraordinaires. Maintenant, je vous montre que s'ils ont certaines limites, ils sont quand même bien nécessaires à la vie de l'Église. En effet, la faiblesse humaine étant ce qu'elle est, il est très facile de déchoir du vrai chemin sans ces rappels pressants venus du ciel. La réalité est là. Si les héros sont rares dans l'ordre naturel, ils le sont encore peut-être plus dans l'ordre surnaturel. Alors bien sûr que la hiérarchie de l'Église est assistée par le Saint-Esprit pour transmettre fidèlement le dépôt de la foi. Donc il suffirait de regarder tout ce que l'Église a enseigné depuis toujours pour être sûr du droit chemin. Mais force est de constater qu'à certaines périodes, plusieurs des membres de la hiérarchie sont comme encroûtés ou endormis, voire même prévaricateurs. Écoutons encore le père Calmel. Il n'y a pas à nous faire d'illusions sur la médiocrité dans les gens d'Église, leur indifférence à paître le troupeau du Seigneur, leur inconscience à le livrer aux faux bergers. Telle est la dure vérité humaine, la terrible vérité quotidienne qui fait le pendant de la vérité divine sur les prérogatives du magistère ordinaire. Telle est la vérité qui aide à saisir pourquoi l'Église ne pourrait vivre sans merveilleux. sans le merveilleux des apparitions et des révélations privées, sans le merveilleux des miracles, le merveilleux des charismes multiformes. La retombée de la médiocrité serait trop grande pour ne pas faire déchoir une société de saints. La médiocrité finirait par prévaloir et par tout submerger. Imaginons par exemple ce que nous serions si la Sainte Vierge n'était pas apparue du tout depuis le siècle dernier. Si nous n'avions ni les apparitions de la rue du Bac, ni Lourdes, ni La Salette, ni Fatima, ni Pontmain, ni toutes ces apparitions. Eh bien, c'est sûr que beaucoup d'âmes ne seraient. Le salut de beaucoup d'âmes serait en jeu. Toutes ces interventions célestes ont permis à beaucoup d'âmes de se sauver. Ça, nul ne peut le nier. Donc, cela montre la nécessité, malgré tout, du merveilleux. Il ne faut pas non plus qu'il veut faire l'ange fait la bête. Il faut reconnaître que si ce n'est pas l'essentiel de la vie de l'Église, si on ne doit pas donner dans notre vie intérieure la priorité aux apparitions sur la vie des sacrements, ça n'empêche que c'est une réalité dont on ne peut pas non plus faire abstraction. Donc, premier motif des apparitions de la Sainte Vierge et de notre Seigneur et des charismes extraordinaires, c'est lié à la faiblesse de notre nature humaine. On est des pauvres humains, on a tendance à oublier le ciel, alors le bon Dieu se manifeste à nous parfois de façon extraordinaire. Second motif de l'existence des apparitions et révélations privées, la libéralité divine. Le bon Dieu étant infiniment bon, eh bien, même s'il se communique à nous d'une façon habituelle par le canal de la prière et des sacrements, peut très bien se manifester à nous de temps en temps d'une façon extraordinaire. Et il veut également que certains fidèles, de simples fidèles, apportent leur contribution au service de la révélation du salut. Alors bien sûr, cet apport de la prophétie privée doit toujours se faire sous le contrôle des dignitaires de l'Église. Mais celle-ci a permis, par exemple, le développement de la dévotion au Sacré-Cœur. S'il n'y avait pas eu Sainte Marguerite Marie, il n'y aurait pas toutes les dévotions au Sacré-Cœur que nous connaissons maintenant, en particulier les premiers vendredis du mois. Et puis la messe du Sacré-Cœur. Également, l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes sous le vocable de l'Immaculée Conception a sans doute contribué à l'extension de la dévotion à l'Immaculée Conception de Marie. De la même manière, l'apparition de la Sainte Vierge à Fatima a contribué à développer et à susciter la dévotion au cœur immaculé de Marie. Cela est un fait certain. Alors maintenant, de nouveau, après la nécessité de ces apparitions, de nouveau revenons sur les limites, au moins pour celui qui les reçoit. Les charismes sans la charité ne servent de rien pour celui qui le reçoit. Les charismes sans la charité sont moins utiles à l'Église que ne le voudrait le Saint-Esprit. Faute de charité, certains charismes servent à une certaine édification du corps mystique, mais servent aussi à beaucoup de confusion et de scandale. Celui qui a par exemple le charisme de prédicateur, mais s'il manque d'humilité, eh bien il risque un jour de s'écarter de la droite doctrine. Donc au départ, il avait un don voulu de Dieu, que Dieu lui avait octroyé, mais s'il s'en sert à son propre profit, eh bien cela, au lieu de servir à l'édification de l'Église, servira à la perte de ce prédicateur. Et à la perte peut-être de beaucoup d'âmes. De même, le charisme de direction des âmes, certains sont plus ou moins doués pour diriger les âmes. Si le directeur d'âme s'attache trop aux âmes, ou attache trop les âmes à lui, au lieu de les attacher à Dieu, eh bien, cela sera encore une cause de scandale. Après, le père Calmel parle de stigmates. Alors, il a peut-être des exemples en tête, en pensant à une personne qui sans doute aurait été stigmatisée. Et ensuite, le fait d'être stigmatisée, elle a pensé être arrivée à la sainteté et s'est cru la mission de diriger tout le monde. Et finalement, cela a contribué à porter un discrédit aux stigmates eux-mêmes. Par contre, unis à la charité, les charismes servent à l'utilité de tous. Et là, on voit, normalement, ça donne un petit peu des idées de critères. On ne verra pas dans le détail les vraies et les fausses apparitions. La liste serait trop longue. Mais sur la façon dont le bon Dieu a coutume d'intervenir dans d'une façon surnaturelle, et également la réaction de ceux qui reçoivent avec humilité ces révélations. Par exemple, Sainte Jeanne d'Arc n'a pas prétendu aller au-delà de sa mission qui était le sacre du roi chrétien légitime. Sa mission, c'était cela, point final. Elle n'est pas allée plus loin. Sainte Bernadette également, ayant transmis sa révélation pour tout le monde chrétien, elle n'a pas estimé avoir mieux à faire que de rentrer au couvent. Elle n'a pas dit, j'ai vu la Sainte Vierge, je suis la meilleure, alors maintenant venez me voir, je vais tout vous dire sur votre avenir. Eh bien, une fois que sa mission était remplie, elle est partie discrètement au couvent. Sainte Thérèse Coudert, c'est pareil, elle a fondé le Cénacle, et on voit que au bout de quelques années, eh bien, on n'a pas voulu la recevoir comme supérieure du couvent, et elle a dû continuer sa vie comme simple religieuse, parce que sa mission, au moins aux yeux de Dieu, était terminée. Au moins, elle était autre. Alors, quelle est l'attitude, en résumé, qu'on doit avoir face à tous ces charismes, à ces révélations privées, à ces miracles et tout ça? Eh bien, il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est un engouement, une crédulité excessive. Et le deuxième, c'est un esprit rationaliste. Alors, attitude pratique à l'égard des âmes favorisées du charisme de prophétie privée ou d'autres grâces extraordinaires. Il faut savoir que l'envoyé miraculeux de Dieu n'est pas un oracle universel. Et en outre, il n'est pas nécessairement infaillible dans tous ses propos soi-disant inspirés. Ça, c'est classique. On le voit dans le cas de Marthe Robin, de Mama Rosa, enfin de tous ceux qui... ont eu des apparitions, ou soi-disant en ont eu, que très souvent on va les voir pour en pensant que sous prétexte qu'ils ont eu des dons extraordinaires, ils seront capables de répondre à toutes les questions qu'on va leur poser. Mais aussi bien c'est vrai qu'ils ont eu ces apparitions, et ils pourront très bien se tromper sur les questions qu'on leur posera. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont eu la grâce de voir la Sainte Vierge ou d'avoir des stigmates qu'ils deviennent infaillibles pour autant et qu'ils ne pourront jamais se tromper. Par ailleurs, qu'un stigmatisé ait la grâce de lire dans les cœurs ne signifie pas non plus qu'il est capable de lire forcément dans tous les cœurs, ni même que sa lecture soit toujours exacte. Ce n'est pas parce qu'on se trompe parfois que l'on n'est jamais inspiré. Qu'un autre chrétien ait reçu la faveur de transmettre les avertissements divins en nous adressant des prophéties comminatoires ne signifie pas qu'il soit qualifié pour prophétiser de toutes choses. Si on l'a demandé de prophétiser sur un domaine particulier, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout l'avenir. Par ailleurs, plus les chrétiens favorisés de charismes comme la révélation du secret des cœurs ou l'annonce de l'avenir sont abondants en paroles et fertiles en prédications, et plus aussi ils courent le risque de se tromper. Évident. Si vous avez des saints qui soi-disant, enfin, ou des voyants qui ont soi-disant des apparitions tous les jours, et avec des messages qui font 5 pages, ils auront plus de risques de se tromper en recevant ces messages pendant 10 années de suite, donc ça fait 3550 apparitions, que celui qui aura reçu une demi-page à transmettre. C'est évident. D'ailleurs, on peut douter en ce moment-là de la véracité de la voyante, parce que je ne pense pas que la Sainte Vierge soit aussi bavarde que cela. Car si Dieu a donné à certaines personnes des charismes, il ne les est pas pour autant doués de sorte de pouvoir féerique, capable de répondre comme au presse-bouton à n'importe qui et sur n'importe quoi. Justement, ce qui accrédite le mieux la réalité des voies de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc, c'est la discrétion. Hors des limites de sa mission de politique chrétienne et la préparation de son âme à sa mission, les voies ne lui révèlent rien. Conclusion. Si le chrétien doit avoir le sens des limites de l'autorité, quand il a affaire à ceux qui exercent dans l'Église l'autorité officielle, il doit avoir le même sens des limites des messagers miraculeux. Il est évident que quand vous allez voir un prêtre, vous allez lui demander conseil, le prêtre pourra très bien se tromper. Il n'est pas forcément infaillible. Eh bien, si vous admettez bien que tous les prêtres ne sont pas infaillibles sur toutes les questions que vous pouvez leur poser, eh bien, si vous allez voir une personne qui a une révélation, ce n'est pas parce qu'elle a eu une révélation qu'elle-même sera infaillible. Et cela est très important. Il y a des gens qui avaient demandé, posé des questions aux voyants par rapport à la crise de l'Église, par rapport au pape, par rapport à Mgr Lefebvre, etc. C'est pas forcément le rôle du voyant de tout savoir et de tout dire. Donc, il faut toujours revenir à l'essentiel. La grande préoccupation de l'âme chrétienne est de vivre de foi, de grandir dans la charité. Et pour y parvenir, le secours ordinaire qui nous est donné, c'est la grâce et les sacrements. Et ensuite, on reconnaît bien l'intervention de secours extraordinaire. En détail, la position de l'Église à l'égard des apparitions, miracles et révélations. Premier point, le nécessaire discernement des esprits. Donc maintenant, on va s'arrêter plus particulièrement aux apparitions. Un premier et triple danger, la crédulité, l'apparitionnite, l'illuminisme. Les fidèles ont de tout temps été attirés et séduits par les phénomènes mystiques extraordinaires, apparitions, visions, prophéties, extases, stigmatisées, dont Bernard Billet a enregistré de 1928 à 1975 232 cas qui n'ont pas été reconnus par l'Église. Et si l'on regarde ceux des dernières années, on devrait au moins atteindre le chiffre de 300. Alors face à cette prolifération de faits merveilleux, premier danger, tout croire. Déjà en 1951, le cardinal Ottaviani déplorait cette attitude en disant aux fidèles « Chrétiens, ne vous excitez pas si vite ». C'était rapporté dans l'Osservatore Romano du 4 février. Donc, la première chose, éviter de tout croire systématiquement. Et ça, c'est sûr. On va vous dire, demain, on va vous dire que la Sainte Vierge est apparue, je sais pas, dans la région lyonnaise. Eh bien, c'est sûr que vous allez avoir ensuite des milliers de personnes qui vont accourir, sans discernement. Deuxième danger, trouver du goût à ce surnaturel sensible, douteux et frelaté. Deuxième danger, c'est rechercher du goût. Et ça, c'est important. Quand vous allez donc à Lourdes, à Fatima ou ailleurs, eh bien, on n'y va pas avant tout pour rechercher du goût, pour essayer de trouver quelque chose de sensible. On peut aller pour implorer des grâces, on peut aller pour différentes raisons, de motifs surnaturels, mais ce n'est pas pour avoir cette recherche de sensible. Si le bon Dieu nous donne du goût, tant mieux. Il le fait souvent d'ailleurs, mais donc ne pas tomber dans ces crises d'apparitionnite aiguë. Troisième danger, c'est l'illuminisme. C'est la troisième étape. Rassurez-vous, je suis prêtre que depuis 3 ans et demi, mais déjà plusieurs personnes sont venues me voir victimes de cet illuminisme. Donc après tout croire et après vouloir sentir, eh bien, c'est se croire soi-même bénéficiaire de semblables phénomènes extraordinaires par autosuggestion. Des voyants et des voyantes, j'en ai eu plusieurs qui sont venus me voir, faisant des révélations tout à fait extraordinaires. Parmi ces gens, il y en a une d'ailleurs qui se prétend pour être ma mère. Alors j'ai constaté que j'avais deux mères, c'est intéressant. Alors elle m'écrit « cher fils » et puis elle signe « avec toute mon affection, votre mère ». C'est comme ça. Alors contre ce péril, relisons Saint Jean de la Croix. Enfin, rassurez-vous, les lettres vont très vite au panier. Contre ce péril, relisons saint Jean de la Croix. Voilà pourquoi l'âme pure et simple, prudente et humble, doit employer toutes ses forces et toute sa diligence à repousser et à rejeter les révélations et les visions comme des tentations très dangereuses, puisque pour tendre à l'union à Dieu, non seulement il n'est pas nécessaire de les rechercher, mais il faut les repousser. Donc au lieu d'avoir le sentiment de désirer avoir ces révélations, et puis essayer de, donc par autosuggestion, de croire que la Sainte Vierge vous apparaît, ou que le Christ se met à pleurer, ou que la Sainte Vierge se met à bouger, que la statue se met à bouger, eh bien il faut au contraire, même si le cas se présente, il faut essayer de le repousser. Et ce sera le signe justement, si on le fait, et si l'apparition est bien là, ce sera le signe eh bien qu'on ne s'est pas laissé abuser. Et saint Jean de la Croix va plus loin, il dit « L'âme qui veut avoir des révélations pêche au moins véniellement. Celui qui la pousse à ce désir également, puisque la raison naturelle et la loi évangélique suffisent à nous diriger en toutes choses. L'âme qui désire des révélations diminue peu à peu la perfection qu'il y a à se guider d'après les lumières de la foi. Elle ouvre les portes au démon et lui permet de venir la tromper par d'autres révélations semblables qu'il sait déguiser à merveille et faire passer pour bonnes. » Donc voilà. Donc premier triple danger, crédulité, apparitionnite, illuminisme. Ensuite, deuxième danger, celui du rationalisme sceptique et impie. Deuxième danger, c'est le mépris systématique contre toute révélation privée. C'est le refus global de toutes les révélations sous prétexte que, ce qui est vrai, que la révélation, avec un grand R, est close à la mort du dernier des apôtres. Dieu est venu sur la terre pour nous dire qui il est. Cette révélation, il l'a transmise à ses apôtres. Et depuis, l'Église ne fait que puiser dans ce trésor de la révélation. Mais il n'y a plus de nouvelles révélations depuis la mort de notre Seigneur. Toutes les révélations qu'il peut y avoir, ils ne peuvent faire qu'expliciter ce qui est déjà contenu implicitement dans les évangiles et dans la tradition orale, dans la tradition écrite et dans la tradition orale. C'est pour ça que saint Paul disait « Si un ange du ciel ou moi-même venait vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché, ne le croyez pas. » Donc parmi ces rationalistes, certains voudraient soutenir que les messages de Père Monial et de Fatima ne sont pas de foi et donc ils sont sans importance pour le salut. On prétend que l'Église est incapable de garantir l'authenticité des faits eux-mêmes. L'abbé Oraison, je ne prends pas très bien son nom, c'est comme ça, en 1976 est allé jusqu'à affirmer que toutes les apparitions en tant que telles, aussi bien celle de Sainte Marguerite Marie que de Sainte Catherine Labouret, étaient toutes des hallucinations. Pour un prêtre, c'est quand même aller un peu fort. Tous ces arguments sont tirés d'une théologie hérétique, à savoir un naturalisme négateur du surnaturel, négateur de faits objectifs extraordinaires. Soi-disant, d'après eux, le Dieu ne peut se manifester que d'une façon immanente dans le subconscient. Troisième position, qui soi-disant est une position moyenne entre les deux autres, et qui est une troisième erreur, c'est le relativisme moderniste. Face à ce dilemme du tout ou rien, on propose aujourd'hui une troisième voie tout aussi dangereuse. Elle consiste à relativiser les apparitions privées en tant que telles. On insinue que le diabolique et l'humain se mêlent toujours plus ou moins inextricablement aux authentiques manifestations de Dieu. On va vous dire n'importe comment. C'est sûr, Dieu apparaît, ça c'est clair, on lui reconnaît la possibilité d'apparaître, la Sainte Vierge peut apparaître, ça je reconnais bien, mais qu'est-ce que vous voulez, là où il y a le bon Dieu, il y a le diable, alors finalement, on n'arrive plus à mêler ce qui est vrai et ce qui est faux. L'abbé Laurentin, encore un autre prêtre, expert au Concile, est un des tenants de cette thèse. Dans son livre « Multiplication des apparitions de la Vierge aujourd'hui, est-ce elle, que veut-elle dire ?» livre écrit en 1988. Il revient sur l'incertitude relative des apparitions même reconnues. Donc il va remettre en doute les apparitions comme celle de Lourdes, de Fatima, etc. en disant qu'elles ne sont jamais reconnues qu'au titre de leur probabilité. Aussi, il insiste sur le caractère relatif et ambigu des messages transmis par Sœur Lucie de Fatima, ce qui laisse toute liberté à chacun de les accepter, de les ignorer ou de les rejeter. Par contre, en faveur de cette ambiguïté, on le voit surtout pour Medjugorje, il affirme qu'il n'y a pas d'apparition si intrinsèquement mauvaise, qu'elle nécessite une sévère répression de la part des autorités de l'Église. Donc les vrais ne sont pas si vrais que ça, et les fausses ne sont pas si fausses que ça. Alors que répondre à ces nouvelles thèses en vogue aujourd'hui ? Gerson, au XVe siècle, y répond en comparant les visions et révélations aux monnaies, à l'argent. Certains affirment qu'il n'y a que de vraies monnaies, d'autres qu'il n'y a que des fausses. Et l'abbé Laurentin, pour mettre d'accord tout le monde, dit qu'il est de la nature de la monnaie d'être tout à la fois plus ou moins vraie et fausse. Son relativisme est le seul moyen de réconcilier les adversaires acharnés et les partisans chaleureux des apparitions. Comment cela ? Eh bien, tout simplement, en dévalorisant indûment de 50% la vraie monnaie des authentiques apparitions divines, et en surévaluant de 50% la fausse monnaie des apparitions douteuses et frauduleuses, pour les égaliser toutes dans une appréciation moyenne, aussi gravement plus ou moins inexacte pour les unes que pour les autres. Donc vous avez compris, entre le fait de dire que toutes les apparitions sont vraies, toutes les autres sont fausses, solution moyenne, on ne peut jamais savoir si elles sont vraies ou fausses, donc elles sont toutes plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. La solution catholique. Quatrième point, le nécessaire discernement des esprits. Gerson nous l'a donné. De même qu'il y a de la monnaie authentique et de la fausse monnaie, ainsi il y a de vraies révélations, il y en a des fausses, qui se reconnaîtront toujours par la présence ou l'absence de tous les caractères de la vraie monnaie. Pour savoir s'il y a une fausse monnaie, on met une vraie monnaie à côté, puis on regarde si c'est absolument identique. Et il suffit de voir une faille dans la monnaie, on se dit, non, elle n'est pas vraie. Il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, ce sera exactement la façon dont nous procéderons pour savoir si une apparition est vraie ou fausse. Il suffira d'un seul critère qui nous montrera que ça, il y a quelque chose qui cloche pour dire, non. Même si tout le reste va bien, il suffit d'un point sur lequel on achoppe pour dire que l'apparition ne peut pas venir de Dieu. Parce que le bon Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, le premier point, le nécessaire discernement des esprits. Deuxième point, l'Église reconnaît, approuve et recommande les authentiques manifestations divines. C'est un fait incontestable, les vraies apparitions et les signes miraculeux et éclatants jalonnent l'histoire de l'Église comme de pures grâces merveilleuses inattendues, comme autant d'interventions de notre Seigneur ou de notre Dame, toutes empreintes de vérité, de beauté, de sainteté, et de miséricordieuse tendresse. C'est un fait non moins incontestable que ces révélations et apparitions furent constamment décisives, au point que si par abstraction on imagine ce qu'aurait été sans elles l'histoire de l'Église, on mesure l'affreux appauvrissement qui en eut résulté. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Que serait notre dévotion à la Sainte Vierge si nous n'avions pas eu toutes les apparitions de la Vierge depuis le siècle dernier. Et dans tous les cas, l'Église a garanti l'authenticité de ces faits miraculeux. Donc, quand l'Église, à partir des critères qu'elle a dit, la Sainte Vierge est réellement apparue, ça veut dire qu'elle est apparue. Ça ne veut pas dire que c'est simplement probable. On le voit par exemple à Lourdes, Mgr Laurence, le 18 janvier 1862, dans le décret approuvant les apparitions de Lourdes, il dit ceci. « Nous jugeons que Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirou, que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité, et que les fidèles sont fondés à la croire certaine. Il n'a pas dit sont fondés à la croire probable, mais certaine. Donc, lorsque l'Église approuve une apparition, il y a une certitude. Troisième partie. L'Église démasque et condamne les impostures aussi bien humaines que diaboliques. Déjà dans la Sainte Écriture, on lit ceci. C'est Saint Jean qui parle. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, ne vous fiez pas à tout esprit. Dès que vous entendez parler d'une apparition à la Sainte Vierge, ne courez pas tout de suite pour la reconnaître comme telle. Et notre Seigneur, dans Saint Matthieu, je l'avais dit dans l'introduction, si l'on vous dit « voici le Christ » ou « le voilà », n'en croyez rien. Il surgira en effet de faux Christ et de faux prophètes qui produiront des signes et des prodiges considérables. Donc, ils produiront des signes et des prodiges considérables. Donc, si vous voyez des signes et des prodiges considérables, ne vous dites pas que c'est de Dieu. Pas nécessairement. Capable d'abuser, si c'était possible, les élus eux-mêmes. Donc, au point que même ceux qui sont le plus proches de Dieu pourraient se laisser abuser. Et ensuite, il termine en disant, « Ainsi, vous voilà prévenus. » Donc, c'est comme un avertissement qu'il nous lance. L'histoire de l'Église. Alors c'était très intéressant, je me suis servi pour cela du livre Medjugorje en toute vérité par le frère Michel de la Trinité. Il a deux chapitres sur ce discernement des vraies et des fausses apparitions qui sont vraiment très intéressants, très instructifs. Depuis son origine, l'Église a dû combattre les aberrations d'un pseudo-mysticisme toujours renaissant. De faux oracles, de fausses apparitions et de faux miracles. Ainsi, par exemple, dès le début de l'Église, les prophéties et extases des montanistes. Les montanistes, c'était au IIe siècle. Ça venait d'un certain Montan. Il était ancien prêtre de Cybèle, converti au christianisme. Alors, il va prêcher un ascétisme rigoureux. Donc, on va dire, ce qui, pour le suivre, il faut vivre en ascète comme ça, c'est que ça doit être bien. C'est ce qu'on entendrait aujourd'hui. Il prêche des jeûnes répétés et prolongés, l'abstinence de viande et de vin. Il invite de façon pressante au célibat et à la virginité. On va dire, s'il dit qu'il faut embrasser la virginité, c'est que ça doit être sans doute très bien. Très vite, des villes entières se laissent gagner par sa doctrine. Il transmet soi-disant des oracles divins. Mais finalement, les évêques d'Asie découvrent des hérésies dans ses écrits. Ainsi, les novateurs sont excommuniés. Et malgré tout, cette hérésie continuera de se répandre jusqu'au IXe siècle. Donc vous voyez, au IIe siècle, l'Église condamne les montanistes. Eh bien, ça va se transmettre de génération en génération et ça durera jusqu'au IXe siècle. 700 ans plus tard, il y avait encore des tenants de cette doctrine. Au Moyen-Âge, faux mystiques et faux prophètes du Moyen-Âge. Alors là, il faudrait prendre tout dans le détail. Je vous donne simplement quelques doctrines qui ont été condamnées par l'Église avec, soi-disant aussi, des miracles, des faits extraordinaires et tout ça. Il y avait les Vaudois, condamnés par l'Église, les Amoriciens, les frères du Libre-Esprit, les Fraticelles, les Amis de Dieu, les Bogomiles. Et donc, l'Église a toujours condamné leur fausse doctrine et le mensonge des prétendus charismes. Ensuite, les tromperies diaboliques au temps de la contre-réforme, au XVIe siècle. Là, si vous voulez, après ces classifications, je voudrais m'arrêter sur deux cas précis. On pourrait prendre, j'aurais pu choisir d'autres, il y en a eu tellement dans l'histoire de l'Église, mais je m'arrête sur deux cas très précis pour vous montrer comment est-ce que le démon est le singe de Dieu. Le cas tout d'abord de Madeleine de la Croix et ensuite de Nicole Tavernier. D'abord Madeleine de la Croix, elle est née en 1487 en Espagne. Dès l'âge de 5 ans, elle bénéficie de nombreuses apparitions de Notre Seigneur et de divers saints. Elle est guérie miraculeusement, transportée d'une façon merveilleuse en des lieux très éloignés. Dès 12 ans, elle fait des miracles. En 1504, elle prend l'habit, à l'âge de 17 ans, chez des franciscaines de Cordoue. Bientôt connue et vénérée dans toute l'Espagne, elle est élue abbesse de son monastère en 1533 et réélue en 1536 et 1539. Enfin, en 1542, ces religieuses découvrent ce qu'il en était en fait de sa spiritualité. Soi-disant, elle avait fait croire qu'elle se nourrissait que d'une hostie par jour. Mais voilà qu'on l'a remarqué qu'entre les repas, eh bien, elle passait à la cuisine pour se nourrir. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille. Et ensuite, on a remarqué qu'elle tenait certains propos scandaleux en poussant des personnes au péché. Ce qui finit par alarmer son entourage. Finalement, en 1543, elle avoue que le démon lui était apparu à l'âge de 5 ans en ange de lumière, lui annonçant qu'elle serait une grande sainte. À 12 ans, elle passait pour une sainte et faisait alors de faux miracles. Et finalement, à l'âge de 13 ans, elle avait accepté de faire un pacte avec le démon. Et après ses aveux, eh bien, elle sera condamnée par l'Inquisition, par le tribunal de l'Inquisition. Alors, si vous voulez un peu plus de détails. Donc, je vous dis pour la fin, donc je vous ai raconté un petit peu sa vie. Bientôt, se sentant sur le point de guérir, Madeleine rétracta ses aveux. Il fallut l'exorciser de nouveau pour qu'elle les confirmât enfin. Elle fut jugée par l'Inquisition et condamnée en 1546 à être enfermée dans un autre couvent de son ordre et à diverses peines. Son cas nous est particulièrement bien connu par les témoignages des religieuses du couvent de Cordoue et par les pièces du procès d'Inquisition. Il est particulièrement éclairant sur l'une des tactiques du prince du mensonge. Il commence par tromper Madeleine en se déguisant en ange de lumière. Quand elle avait 5 ans, elle a cru que c'était vraiment un ange qui lui apparaissait. Puis, après 8 ans d'illusions, de fausses apparitions et de faux miracles qui ont nourri son âme de fausses mystiques et ont fait croître en elle le désir de passer pour une sainte, il se démasque, donc à l'âge de 13 ans. Alors, avec le consentement de sa misérable esclave devenue sa complice, qui accepte de se livrer à lui librement, il parvient à réaliser son projet ténébreux et tout le mal qu'il avait en vue. Il mêle son jeu à toutes les impostures de sa victime et il y contribue de tout son pouvoir surhumain. Dans le cas de Madeleine de la Croix, le résultat est stupéfiant, sans doute l'un des plus monstrueux de toute l'histoire de l'Église. 50 ans de tromperies diaboliques et de supercherie qui abusèrent les plus grands théologiens d'Espagne, les inquisiteurs, les évêques et les cardinaux. Deuxième exemple, le cas de Nicole Tavernier à Paris. Alors, Frère Michel de la Trinité l'a décrit comme une fausse mystique de haut vol, faisant des prodiges extraordinaires, admirée de grands personnages, tant religieux que séculiers. Et là, elle sera démasquée par la bienheureuse Marie de l'Incarnation, Madame Acari. Le cas de Nicole Tavernier à Paris, durant les troubles de la Ligue, est peut-être encore plus stupéfiant, car il semble qu'il s'agissait seulement, dans son cas, d'une simple tromperie diabolique, sans que la malheureuse se fût formellement livrée à Satan comme Madeleine de la Croix. Et cet exemple est d'autant plus instructif qu'il est rapporté avec précision par un témoin contemporain des plus compétents, le père André Duval, dans sa vie admirable de la sœur Marie de l'Incarnation. Alors voilà ce qu'il dit. La clairvoyance de la bienheureuse Acari se reconnut manifestement à propos d'une fille de Reims, nommée Nicole, qui fut si prodigieusement trompée que je ne sais si jamais il s'est rencontré rien de semblable. Plusieurs grands personnages, tant religieux que séculiers, la considérèrent longtemps, l'examinant de point en point, tant sur sa vie que sur ses paroles et ses actions, mais le diable se cachait avec tant d'artifice et faisait paraître en elle des choses si singulières en vertu et en piété qu'on ne pouvait humainement douter qu'elle ne fût assistée par Dieu d'une grâce toute particulière. Elle faisait en sorte que le peuple par toutes les villes de France se mit en bon état. Et comme elle vivait durant les troubles arrivés sous Henri III et Henri IV, elle soutenait que ces calamités publiques ne provenaient que des péchés du peuple, et que si l'on s'en abstenait, on verrait bientôt la fin de ces maux. Elle fit si bien qu'en quelques villes, sur sa parole, des prières et des processions publiques furent ordonnées, et que le peuple se confessait et communiait avec beaucoup de ferveur. Ainsi, elle fit ordonner un jour à Paris une procession générale, menaçant le supérieur ecclésiastique qu'il mourrait dans l'année s'il négligeait l'avertissement qu'elle lui en donnait de la part de Dieu. Si bien que le Parlement et les justices inférieures, avec tous les marchands et gens de métier, chômèrent une matinée pour cette procession. Elle allait visiter plusieurs personnes proches de la mort, les avertissait de certains péchés qu'elle n'avait jamais confessés, et aussitôt, reconnaissant qu'elle disait vrai, elle se confessait avec beaucoup de contrition. Elle prédisait les choses futures et on la voyait arriver comme elle les avait dites. Ses discours tenaient plus du divin que de l'humain. Parfois, elle commentait des passages du Cantique de Salomon et leur donnait un sens si sublime et si à propos que des docteurs célèbres n'y eussent pas si bien réussi. Les extases lui étaient ordinaires. Elle avait des révélations et visions fort fréquentes. De grands seigneurs, tant au dehors qu'au dedans du royaume, se rendaient exprès auprès d'elle pour se recommander à ses prières et s'informer du succès de leurs affaires. Alors, quand on lit tout ça, au départ, on dit, mais c'est une sainte, c'est pas possible. Mais vous allez voir la suite. Elle fut un jour si malade qu'on la croyait vraiment morte et que son corps fut ôté du lit, mis sur la table et enveloppé d'un linceul qu'on allait coudre. Elle revint à elle après cela et dit d'une voix douce et intelligible, « Ah mon Dieu, puisqu'il vous plaît de me redonner la vie, je la consacre à votre service. » Elle parut depuis si parfaite en tout que les plus versés en la vie spirituelle, quoiqu'ils l'examinassent fort soigneusement, ne pouvaient remarquer la moindre imperfection, soit en son maintien et ses paroles, soit en ses œuvres et ses dévotions. Bon, etc., etc., etc. Ce qui intéresse, c'est la conclusion. Malgré tous ces effets si prodigieux, Mademoiselle Akari soutenait fortement que cet esprit n'était point de Dieu, mais de Satan, qui se travestissait en elle en ange de lumière. Car, disait-elle, les extases, visions et révélations ne sont point un argument certain de la demeure ou assistance de Dieu en une âme. Combien en a-t-on vu qui ont été trompés avec cette sorte de vision? Quoiqu'elles aient été la cause de la conversion ou même du salut de quelques âmes, c'est un stratagème du malin esprit qui est content de perdre un peu pour gagner beaucoup. C'est la grande tactique du démon. Gagner peu pour gagner. Perdre peu pour gagner beaucoup. Et quant à la communion, l'hostie peut avoir été ôtée subtilement par le diable avant la consécration. Parce qu'un jour, ils étaient à trois, à la messe, assistaient à la messe, et puis, voilà qu'elle avait eu, au moment de la communion, il n'y avait plus que deux hosties. Et elle, soi-disant, avait fait une communion mystique. Et là, elle disait que ça pouvait très bien être le diable qui, avant la consécration, avait pris l'hostie, l'avait mis de côté, et puis au moins la communion le lui avait donné. Donc une hostie qui n'était pas consacrée. Et quant à la communion, l'hostie peut avoir été ôtée subtilement par le diable avant la consécration, sans que le prêtre s'en soit aperçu, et après l'avoir réservée quelque temps, il la lui a portée en la bouche. Quant au transport de cette fille depuis la montagne de Meudon jusqu'à Tours, ajoutait la bienheureuse, qui est-ce qui l'a vue ? Etc. Notre bienheureuse dit ces choses avec tant de force qu'il semblait que ses paroles fussent comme des flèches bien acérées, pour percer jusqu'au fond de l'âme ceux qui l'écoutaient. Ils commencèrent à douter du fait de cette fille et n'osèrent plus en parler avec assurance comme ils le faisaient auparavant. Ils répliquaient néanmoins qu'encore que tous ces effets puissent être causés par le diable dont l'écriture élève la puissance par-dessus toutes celles qui sont sur la terre, ils pouvaient aussi provenir de l'esprit divin. Donc à la fin ils disaient ben, peut-être que c'est pas du diable, mais en tout cas ça peut-être que c'est pas de Dieu, mais en tout cas ça peut quand même être de Dieu. Et ils commençaient déjà à douter. Comme on était en cette perplexité, les uns approuvant son esprit et les autres en doutant, Mademoiselle Akari donna à cette fille, qui demeurait en sa maison, une lettre fermée seulement par un feuillet de papier sans cachet, pour la remettre à quelqu'un qui la devait venir chercher. Puis elle s'en alla dans la ville à quelques affaires sans lui dire autre chose. Elle avait mis exprès dans cette lettre de petits morceaux de papier, pas plus grands que la pointe d'une épingle, et par conséquent, quasi imperceptibles, afin de reconnaître s'il y avait de la curiosité en cette fille. Donc, il met des petits bouts de papier à l'intérieur, et puis ils sont bien placés, de telle sorte que si la personne ouvre l'enveloppe, eh bien, les papiers s'en iront, et la personne ne s'en apercevra pas. En effet, si elle ouvrait la lettre pour la lire, ces petits papiers tomberaient, sans qu'elle s'en aperçût. Dieu permit que le diable n'eût point connaissance de ce dessein. La bienheureuse étant partie, cette fille ne manqua pas d'ouvrir la lettre et de la lire, puis elle la referma comme elle l'était. Mais en la lisant, les petits papiers tombèrent sans qu'elle y prît garde. La bonne demoiselle étant de retour, lui demanda si l'on n'était point venu quérir cette lettre et si elle ne l'avait point lue. Donc première chose, déjà elle lit, preuve qu'elle est curieuse. Deuxième chose, alors on lui pose maintenant la question, est-ce que vous avez lu la lettre ? Elle répondit que non, et la lui rendit. Notre bienheureuse, dès qu'elle fut à part, l'ouvrit, et ne trouva plus les petits papiers. Elle reconnut par là que cette pauvre fille l'avait ouverte, et qu'il y avait de la curiosité et du mensonge en son fait. Cela la confirma davantage en l'opinion qu'elle en avait. Elle observa encore de plus près, et la soumit depuis à plusieurs expériences qui achevèrent de lui persuader, à elle et aux autres, le vrai état de cet esprit. Cette petite faute de curiosité accompagnée de mensonges, laquelle, quoique légère en elle-même, est grave et très remarquable en une âme élevée à des choses si extraordinaires et faisant profession d'une si grande perfection, fit prendre la résolution de la traiter à l'avenir d'une autre manière. Satan, impatient d'être découvert et de voir que les desseins qu'il avait formés par le moyen de cette fille de ruiner plusieurs saintes congrégations de l'Église allaient apparaître avec évidence, ne put contenir sa rage. Aussi un jour, que notre bienheureuse était en sa chambre avec cette fille, et quelques bons pères capucins et autres, l'on vit manifestement faire une traînée de poudre à canon dans la chambre, et le feu y prendre, avec une puanteur dont toute la communauté fut infectée. Chacun crut que c'était le congé de Satan, que Satan prenait de cette pauvre fille, car dorénavant il la laissa à son naturel, si bien qu'elle n'avait plus cet esprit élevé, ses beaux discours, ses conceptions hautes, ni l'apparence de ses grandes vertus. Mais elle était fort grossière, rude et imparfaite. Elle ne pouvait plus jeûner, ni demeurer longtemps à l'église. Elle se maria même contre la volonté de ses parents, et fut sur le point de se faire huguenote, mais un père de la compagnie de Jésus, qui l'avait autrefois vue en sa perfection imaginaire, l'en empêcha et lui persuada de vivre comme font les honnêtes femmes qui sont dans le monde et au mariage. Cette histoire ne sert pas seulement à faire reconnaître le danger qu'il y a aux illusions diaboliques quand le prince des ténèbres se transfigure en ange de lumière, mais aussi montre très clairement le don de discernement des esprits que Dieu avait mis en l'âme de notre bienheureuse, car elle vit plus clair en ce fait que les plus célèbres docteurs. Donc vous voyez, moi je vous ai donné deux exemples comme ça, très précis, pour vous montrer comment est-ce que le démon est le singe de Dieu.
Sauveur sur ce bois, que je vénère. Être à ce point, qu'on pèse.